Ça veut dire que tu es le commencement et tu es la fin.
Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange.
Oh,
tu es Alpha. Tu es Alpha.
Amen.
Et Oméga.
Lève les mains vers le Seigneur. Lève les mains vers lui. Les deux mains, lève les deux mains. Oh yes.
Oh, nous te donnons, nous te donnons. Oh,
honneur et la gloire. Alléluia.
Nous t'adorons, Seigneur. Tu es.
Ferme les yeux pour éviter d'être distrait. Garde les mains levées, reste dans la présence de Dieu. Il va te toucher ce soir.
Nous te donnons
la gloire. Nous t'adorons, Seigneur.
Oh oui, hallelujah.
Tu es digne de louange.
Oui, Seigneur, investis ce lieu ce soir. Investis-le de ta présence et de ton onction. Viens nous revêtir, viens nous toucher, Seigneur. Viens nous joindre encore ce soir. Et permets qu'en sortant d'ici, nous puissions sortir revêtus d'une onction fraîche et d'une onction nouvelle. Seigneur, nous savons que le berger oint ses brebis pour les protéger contre les insectes, contre les morsures, contre les bestioles. Seigneur, que l'onction que tu as déposée sur nous ce soir nous protège de toute forme d'attaque, de toute forme de corruption, de toute forme de mensonge, au nom de Jésus. Nous te donnons toute l'honneur et nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons également notre cœur, Seigneur, surtout notre cœur, pour t'aimer sincèrement et voir ta gloire se manifester dans nos vies. Alléluia. Merci pour ta main sur nos vies. Au nom de Jésus, le peuple de Dieu dit amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu merveilleux? Alléluia. Gloire à Dieu. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Merci Seigneur pour le groupe musical. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains. Romains chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 16. Romains chapitre 4 à partir du verset 16. La Bible dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. On est héritier par la foi. Amen. Pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père. À tous. Amen. Abraham est le père de ceux qui ont la foi. Et il dit que nous sommes héritiers par la foi pour que ce soit par la grâce que les promesses soient assurées à la postérité. Mais quelle postérité? La postérité d'Abraham. Oh, la postérité d'Abraham, c'est ceux qui ont la foi. Il dit au verset 17, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Il est notre Père devant Dieu. Dieu qui donne la vie aux morts. Il donne la vie aux morts. Amen. Dieu qui donne la vie aux morts. Amen. et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Voilà comment il qualifie Dieu. Amen. Je t'établis père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Crie qui? Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Espérant contre toute espérance. Amen. Espérant contre toute espérance. Il crut. Qui a cru? Abraham. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Je préfère la version anglaise qui dit sans avoir une foi faible. Sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Amen. Au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié, comment? Par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, qui promet Dieu, il peut aussi l'accomplir. Amen. La Bible dit donc au verset 20, il ne douta point par incrédulité. Amen. Au sujet de la promesse de Dieu, donc la promesse de Dieu a été faite, mais Dieu lui a fait la promesse, il avait 65 ans. Amen. Dieu lui a fait la promesse, il avait 65 ans. Et là, il avait 100 ans. Donc si on fait nos calculs, ça veut dire que 35 ans plus tard, après la promesse, Abraham continuait de croire. Amen. À la place d'Abraham, certaines personnes diraient, tu vois, maintenant je suis vieux, je suis déjà presque mort, ça sert à quoi maintenant de me donner un enfant? Même si j'ai un enfant, est-ce que je vais pouvoir en profiter? Est-ce que je vais pouvoir le voir grandir? Mais le Dieu qui accomplit la promesse, non seulement il accomplit la promesse, mais il nous donne également la force, la vigueur et tout ce qu'il faut pour pouvoir justement profiter des promesses qu'il a accomplies. Abraham a vu Isaac grandit. Il a vu Isaac se marier. Ne limitons pas Dieu par notre incrédulité. La Bible dit, au verset 18, espérant contre toute espérance. Ça veut dire que tout ce qui était vu par Abraham lui disait le contraire de ce que Dieu lui avait dit. Mais Abraham a été fait justice de Dieu par la foi. Verset 19 nous dit, et sans faiblir dans la foi. Moi, je préfère dire sans une foi faible. Parce que tu as deux sortes de foi. Et je veux parler de ça justement. Je veux parler sur le thème une foi forte. Et sans une foi faible. Parce qu'il y a des gens qui ont des fois faibles et il y a des gens qui ont des fois fortes. Il y a des gens qui ont des petites fois et il y a des gens qui ont des grandes fois. Il y a une différence entre avoir une foi faible et avoir une petite foi. Je vais vous expliquer la différence. Petite foi, c'est en fonction de la quantité. Faible, c'est en fonction de la puissance. Amen. Donc, vous avez des gens, par exemple, qui sont musclés, mais qui ne sont pas forcément forts. Et vous avez des gens qui sont forts et qui ne sont pas forcément musclés. Et vous avez des gens qui sont musclés et qui sont forts. Donc, on dit ils ont la force, ils ont la puissance. OK? Donc, dans la foi, tu as la grande foi, tu as la petite foi, tu as la foi forte et tu as la foi faible. La meilleure combinaison, c'est d'avoir une grande foi forte. Dis à ton voisin, une foi forte. Verset 18, on revient encore. Espérant contre toute espérance. Quand tu vois quelqu'un qui espère contre toute espérance, ça veut dire que c'est quelqu'un, quand tu le regardes, tout ce qui se passe dans sa vie et tout ce que tu vois dans sa vie est contraire à ceux auxquels il croit. Et quand tu le regardes, pour toi, il a l'air d'être un fou. Tu dis, mais il continue d'espérer encore? Oh my God. Qu'est-ce que tu attends encore de la vie? Qu'est-ce que tu penses que tu vas pouvoir faire? Mais la Bible dit que Abraham, espérant contre toute espérance, contre toute espérance, il continuait d'espérer. Amen. Il crut. Ça dit, malgré le fait que les choses sont différentes, mais il continue de croire. Malgré le fait que le commun des mortels dit que c'est impossible, Abraham continue de croire. Malgré le fait qu'on lui dit que ça, vraiment, il faut être fou pour penser que ça peut arriver, Abraham continue de croire. Il avait une foi forte. Sa foi pouvait tenir contre l'adversité. Sa foi pouvait tenir contre les rapports négatifs. Sa foi pouvait tenir contre ce qui était visible et ce qui était audible et ce qu'on pouvait toucher. Sa foi pouvait tenir ferme. Il avait une foi forte. C'est pour ça que la Bible nous dit encore au verset 19, et sans faiblir dans la foi, sans que sa foi devienne faible. Amen. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Quand même, on te dit à 100 ans, puisqu'il avait près de 100 ans, on te dit à 100 ans, tu vas avoir un enfant. Ah! Quand même, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, mais vraiment, ces charlatans-là, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire, quoi. Ça, c'est pour escroquer encore les gens, leur donner de faux espoirs. Il va dire, on me donne de faux espoirs. Mais lui, il a cru. Il n'a pas dit, c'est de faux espoirs. Il dit, il a cru. Il n'a pas considéré que son corps était déjà usé par la vie. On t'a dit, tu vas avoir un enfant à 65 ans, 70 ans, tu ne l'as pas eu. 80 ans, tu ne l'as pas eu. 90 ans. Beaucoup vont dire, mais si à 90 ans, je n'ai pas eu l'enfant, ce n'est pas maintenant, à 100 ans, que je vais l'avoir. Mais Abraham a cru quand même. Il a cru. La Bible dit, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, donc si lui-même, il pouvait penser que parce qu'il connaît Dieu et qu'il a eu certaines expériences avec Dieu, que ça pouvait quand même marcher. Mais quand il regardait Sarah, elle n'était plus, la Bible dit qu'elle n'était plus en état d'avoir. Oh my God! Alléluia! Déjà lui-même, quand il se regarde, il voit que peut-être il a commencé à expérimenter des choses. On dit les hommes commencent à expérimenter des problèmes dans un certain domaine, à partir de 40 ans, 45 ans, déjà, il a des problèmes. 50 ans, il a besoin de Viagra. Or, au temps d'Abraham, il n'y avait pas Viagra. Donc, 60 ans, 70 ans, 80 ans, il y en a, c'est mort, ils n'ont plus de vie. De ce type-là, il dit, ma femme est devenue comme ma sœur. Donc, ils sont ensemble, ils regardent la télé ensemble, ils mangent ensemble, ils font tout ensemble, mais ce genre de pensée-là, ça ne les effleure pas parce que... Mais si tu viens dire, 80 ans, c'est ça son activité, 82 ans, 85 ans, 90 ans, 100 ans maintenant, on lui dit, écoute, le temps maintenant pour toi d'avoir un enfant est arrivé. Essayez de vous mettre un peu à la place d'Abraham pour pouvoir comprendre pourquoi Dieu a dit, non, toi, tu es le père de la foi. Toi, je vais bénir beaucoup de personnes à travers toi parce que tu as ouvert une porte nouvelle. Avant Abraham, personne n'avait pu croire en Dieu à ce point-là. Les gens limitaient Dieu, ils fixaient des limites. Mais Abraham, il se regarde, 100 ans. J'ai jamais entendu ça. Un monsieur de 100 ans fait des enfants. C'est pas possible. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Mais quand tu sors comme ça, tu t'es bien galvanisé. Maintenant, tu regardes maintenant la femme qui est supposée porter ton enfant. Tu dis, ah! Bon, moi, pour moi, je crois. Mais est-ce que ma femme, est-ce que ça peut aller 90 ans? Elle n'était plus en état d'avoir. Ça veut dire qu'il se disait, mais si la femme est enceinte, les médecins vont lui dire, mais si ta femme est enceinte, elle va mourir. Hein? La foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas... On n'arrive pas à ce stade-là comme ça, overnight. C'est pas quelque chose, c'est pas un processus qui se fait en une nuit. Vous avez des gens, vous savez qu'un homme peut soulever 100 kilos. Un homme, un moment quand je faisais du sport, je faisais du football américain, je faisais 150 kilos développé couché. C'est-à-dire couché sur la barre parallèle, je pouvais pousser 150 kilos pour travailler la poitrine. Maintenant, même 90 kilos, si je prends 90 kilos là, ça va m'étrangler. Parce que... un muscle, quand tu ne le travailles pas, il perd sa puissance, il perd sa force. Donc, tout homme ici, potentiellement, peut soulever 100 kilos. Tout homme. Mais il ne peut pas commencer avec 100 kilos. S'il vient, il se met sur la barre, tu lui donnes 100 kilos, ses bras là vont... les 100 kilos vont l'étrangler. Alors qu'il y a d'autres personnes qui s'amusent avec ça. Il y a une compétition, on appelle ça les 100 kilos. On le fait dans chaque pays. Donc il y avait les 100 kilos d'habitants. C'est celui qui pouvait faire le plus de pompes avec 100 kilos. Donc il y en a qui partaient jusqu'à 25, 26, 27, 28, 30 avec 100 kilos. Mais eux-mêmes, tu ne peux pas. Tu déposes 100 kilos tout de suite, là, tes bras. Mais potentiellement, tu le peux. Si tu commences avec 50. Après, tu montes à 60. Ensuite, 70, 80, 90. Tu peux arriver au 100. Et tu peux même dépasser les 100. Tu peux même dépasser les 100. Et être à l'aise avec. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. C'est pour ça que je parle de foi faible et puis de foi forte. Abraham était à un stade où il avait déjà vu faire tellement de choses. Dans ce domaine-là, il était frustré. Mais dans d'autres domaines, il a vu la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, ne vous privez pas des miracles et de la grâce de Dieu. Il y a des personnes qui vont mettre un miracle devant Dieu et ils vont dire, tant que ce miracle-là ne se fait pas, moi je ne peux pas croire. Donc ils se privent de la grâce de Dieu parce que peut-être que Dieu veut se glorifier dans cette situation, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'il va faire pour toi. Abraham a prospéré. Abraham a gagné des guerres. Les terres d'Abraham se sont étendues. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la main de Dieu. Dieu l'a utilisé pour aller sauver son frère. Dieu l'a utilisé pour faire des choses vraiment extraordinaires. Il a eu une vie pleine avant ses 100 ans. Mais son miracle n'était pas encore accompli, mais il continuait de croire. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens, il y a des gens à la place d'Abraham à 65 ans, ils ont dit, Dieu m'a dit, je vais avoir un enfant. Donc, ils sont là, ils sont assis, ils ne bougent pas. On dit, mon frère, viens, on va aller faire une croix. Ah non, moi j'attends l'enfant d'abord. J'attends l'enfant. Faisons ceci, non, j'attends l'enfant. Faites ceci, non, j'attends l'enfant. Et donc il va passer 35 ans de sa vie à attendre l'enfant. Le problème c'est quoi? C'est que peut-être que ta foi n'a pas encore atteint le niveau pour pouvoir atteindre, pour pouvoir provoquer ce miracle. Tu comprends? Et Dieu, maintenant, va vouloir, bien qu'il t'ait donné le but, l'objectif, il va pouvoir, à travers les différentes étapes de ta vie et les différentes choses que tu vas expérimenter, build up, bâtir ta foi, pour que ta foi puisse monter, jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau pour pouvoir recevoir le miracle. Mais tu dis, ah moi je n'ai pas encore vu l'enfant, donc je ne peux pas croire. Tu te prives. Tu te prives. On ne voit pas avant de croire. On croit avant de voir. Amen. La foi forte est le résultat de l'exercice de la foi. C'est le résultat d'un exercice. La foi faible est le résultat du manque d'exercice de la foi. Il y a des gens qui ne travaillent pas leur foi. Ils travaillent leur biceps. Comme ça, ils peuvent porter des tricots, manches courtes, un peu serrées. Il y en a qui travaillent leur mollet, comme ça, ils peuvent porter son petit short en été pour la plage. Parce que tu sais que quand tu travailles une partie de ton corps, cette partie se développe. Il y a des gens qui travaillent leur esprit. Et il y a des gens qui travaillent leur foi. Si tu travailles ta foi, tu vas arriver à un stade où ta foi pourra faire des choses plus grandes. Mais si tu ne la travailles pas, ta foi va toujours rester au même stade. Tu auras la foi qui permet de venir à l'église. David, avant de vaincre Goliath, il a d'abord vaincu l'ours. Et avant de vaincre l'ours, il a vaincu le lion. Si devant le lion, David avait fui. Au secours, un lion! Je suis foutu, je suis déjà mort. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour que mes parents me jettent dans une telle brousse avec des lions qui cherchent à me manger? Je suis foutu, je suis foutu. Au secours, le lion veut me manger, au secours. Même si on vient le sauver et que ses grands frères viennent à sa rescousse pour venir à bout du lion, s'il n'a pas pu faire face au lion, c'est pas devant l'ours qu'il va faire face. Quand l'ours vient maintenant, oh, je suis foutu. Si tu n'as pas pu vaincre le lion, c'est pas l'ours que tu vas vaincre. Le problème avec les gens qui ne travaillent pas leur foi, c'est que tôt ou tard, ils vont faire face à Goliath. Oh my God. Goliath est un rendez-vous obligatoire parce que Goliath se tient entre toi et ta destinée. Personne ne peut entrer dans sa destinée prophétique sans vaincre Goliath. C'est pas possible. Personne ne peut vaincre Goliath à ta place. Goliath, c'est le combat de ta vie. C'est le témoignage. Quand tu viens t'arrêter pour prêcher l'évangile, tu dois avoir le témoignage d'avoir vaincu Goliath. Oh my God. C'est Goliath qui te qualifie pour parler de la part de Dieu et dire à quelqu'un, moi, ce Dieu-là, oh my God, je ne peux pas. C'est à cause de Goliath que Dieu a dit, plutôt que David a dit, en face de mes ennemis, tu dresses une table, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et il dit, mais si moi j'ai vu Dieu utiliser mon bras avec une petite pierre, j'ai mis fin au jour de Goliath. Mais toi, tu es qui pour pouvoir t'opposer à ce que Dieu veut faire dans ma vie? Mais le problème, c'est quoi? Si tu ne peux pas vaincre le lion, tu ne pourras pas vaincre l'ours. Et si tu ne peux pas vaincre l'ours, tu ne pourras pas vaincre Goliath. Si David avait triché devant le lion, il allait fuir devant l'ours. Et s'il fuit devant l'ours, qu'elle allait arriver sur le terrain de bataille et que Goliath allait s'avancer et dit, y a-t-il un homme parmi vous? David dit, hi! C'est qui ça? On dit, il s'appelle Goliath. Il dit, mais Goliath, mais il est immense, 3 mètres. Mais vous faites comment? On dit, ah vraiment, le gars, chaque soir, ça fait depuis 40 jours, chaque soir, il sort et il nous défie. Il a dit, ah, attends, moi je vais repartir à la maison en même temps, c'est mieux parce que c'est ce qu'on y attend, m'attrape. Le danger de ne pas travailler sa foi, le danger de tomber dans les compromis, le danger d'accepter, le danger de laisser les situations, les petites situations prendre le dessus sur nous. C'est un danger, pourquoi? Parce que si tu laisses les petites situations te dominer, lorsque les grandes situations vont se présenter, ta foi ne sera pas assez forte pour t'opposer à ça. Avant de déplacer les montagnes, déplace les collines. Avant de déplacer les collines, déplace au moins un caillou. Tu ne peux pas déplacer un caillou, tu veux déplacer une montagne. La petite foi, donc les gens qui ont des petites foi, comme ça dit, si quelqu'un a une foi grosse comme un grain de sénévé, ta foi peut être petite mais forte. Ta foi peut être petite mais forte. Ok? Les petites fois sont les résultats du manque d'information. Quand tu n'as pas de connaissances, ta foi est petite. Quand tu n'as pas trop de connaissances. Donc, tu peux avoir une foi simple. Il y a des chrétiens qui viennent de naître de nouveau, mais ils ont une foi là, une foi audacieuse. Ils croient. Sa foi est petite, mais elle est forte. Il n'a pas trop d'informations. Il n'a pas la liste des versets. Il ne peut même pas même te donner le verset. Il dit, moi, je crois seulement. Tu dis, mais toi, tu crois sur quel bas? Je ne sais pas. Mais je crois. Je crois, en tout cas, moi, je crois. Et ce genre de foi, c'est ce qu'on appelle la foi forte. Il n'a pas une grande foi, mais il a une foi forte. Amen. La foi, la petite foi, est le résultat du manque d'informations, que les gens n'ont pas de connaissances. Quand tu connais, plus tu connais Dieu, plus ta foi augmente. Maintenant, une foi faible, c'est le résultat du fait de ne pas agir sur la base des informations que tu as. C'est pour ça que vous avez beaucoup de chrétiens qui, dans leur processus de développement, ne se développent pas normalement. Ils deviennent, ils sont, excusez-moi l'expression, mais ils deviennent comme, ils sont malades. Oui. Si tu ne te développes pas correctement, tu auras l'air malade, tu seras comme un malade. Comme quelqu'un qui n'est pas normal. Parce que, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous recevez la parole, vous voulez la voir s'appliquer dans votre vie. Et vous devez la voir s'appliquer dans votre vie. Vous devez mettre votre foi. Vous devez agir sur la base de cette parole-là. Ne recevez pas la parole et les enseignements. Et puis, oui, on verra. Peut-être un jour, c'est possible. Tu accumules la connaissance. Mais tu ne développes pas ta foi au fur et à mesure que la connaissance vient. Donc, si déjà tu ne pourrais pas exercer ta foi pour un verset, ce n'est pas quand tu auras 1500 versets qui vont se bousculer dans ta tête que tu vas pouvoir mettre ta foi en action sur ces versets-là. C'est pour ça que c'est dangereux pour un chrétien d'accumuler de la connaissance sans développer sa foi. Les deux doivent aller en même temps. Quand tu découvres une vérité dans la parole de Dieu, cette vérité doit s'accomplir dans ma vie. Tu as des gens qui disent, oui, je sais, la Bible dit que, mais, soyons réalistes, mais, soyons réels, la Bible dit que, mais, la Bible dit que, mais quoi? La Bible dit que, mais, moi je, la Bible dit que, mais, soyons réalistes, la Bible dit que, mais, peut-être dans 20 ans, la Bible dit, non, la Bible, oh my God, qu'est-ce qui peut être plus réel que la Bible? Qu'est-ce qui peut être plus réaliste que la Bible? Jean chapitre 17, verset 17 dit, ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Pour moi, il n'y a rien de plus réel que la parole de Dieu. Tout ce que je vois qui est contraire à la parole de Dieu dans ma vie, pour moi, c'est ça qui est réel. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu dit. Amen. Ce que Dieu dit, pour moi, c'est la réalité. Il n'y a rien de plus réel. Rien ne peut être plus réel que la parole de Dieu. Vous savez, les illusions, ça existe. Hein? Les illusions, ça existe. Pour moi, ce n'est pas parce que je sens quelque chose que c'est forcément ça. Il y a des parfums de toutes sortes d'odeurs. On te met le parfum, tu vas croire que c'est le truc qui est là. Mais ce n'est pas ça. Pour moi, ce qui est réel, c'est le royaume de Dieu. Ce qui est réel, c'est Dieu. Ce qui est réel, c'est la parole de Dieu. Ce qui est réel, c'est l'Esprit de Dieu. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu dit. Le reste, c'est des montages. C'est des situations. C'est des illusions. C'est des situations que le diable essaie de mettre devant moi pour que je me détache de ma réalité. C'est réel pour les gens du monde. Mais je ne suis pas du monde. Amen. Il y en a qui peuvent citer la parole avec précision. Qui peuvent même prêcher cette parole-là. Et c'est ça qui est dangereux. Vous avez des gens qui prêchent la parole, mais qui refuse d'agir sur la base de la parole qu'il prêche. C'est ce qu'on appelle avoir une foi faible. Si tu n'exerces pas ta foi, si tu ne fais pas travailler ta foi, elle ne sera pas opérationnelle quand tu en auras besoin. En fait, tu dois prendre une résolution à partir d'aujourd'hui et dire à partir de maintenant, tout ce que je vois dans la parole de Dieu doit s'accomplir dans ma vie. Amen. C'est ce qu'on appelle le combat de la foi. Paul a dit, La couronne de justice m'est réservée. J'ai combattu. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Le combat, les combats que les chrétiens doivent mener. Il y a deux combats que le chrétien mène. Le combat de la foi et le combat de l'amour. Tout va se mettre en place dans ta vie pour que tu décides d'arrêter d'aimer. Et tout va se mettre en place dans ta vie pour que tu arrêtes de manifester ta foi. C'est ces deux-là. Si tu arrives à la fin de ta vie en ayant gardé la foi et l'amour, les portes du royaume de Dieu vont s'ouvrir devant toi. Alléluia. Mais si tu arrives à la fin de ta vie et que tu as perdu l'amour, tu as perdu la foi, mais où tu veux rentrer? Mais c'est ça l'entrée dans le royaume de Dieu. C'est l'amour et la foi. Les deux éléments fondamentaux. Ah oui, moi je ne peux plus aimer. Moi je ne peux plus aimer. On m'a fait trop de mal. Ici il n'y a pas d'amour. Si c'est ça, je ne donne plus mon âme. Mais tu te fais du mal à toi-même. La Bible dit dans les derniers temps, l'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand nombre refroidira. Mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi jusqu'à la fin. Ah, moi, je ne peux plus croire. Je ne peux plus croire, pasteur. Je ne peux plus croire. Mais tu ne peux plus croire. C'est ton problème. Je suis désolé. Nous, on te donne tout ce qu'il faut pour croire. Mais si toi, tu ne peux plus croire. Range ta Bible. Jette ta Bible. Va. Et puis, vis pour aller en enfer. Parce que si tu ne peux plus croire, tu vas aller où? Non, Seigneur, je ne sais pas pourquoi Dieu me fait ça. Pourquoi Dieu me fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait à bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi Dieu me fait ça? Pourquoi Dieu te fait quoi? Dieu t'a fait quoi? Qui t'a dit que c'est Dieu qui te fait ça? C'est pas Dieu. C'est parce que toi-même, tu ne veux pas manifester ta foi en face de l'adversité, en face de la situation. Dieu n'a rien fait. Au contraire, Dieu se tient à tes côtés et dit, ma fille, lève-toi. Ma fille, parle à la situation. Ma fille, agis. Ma fille, crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Oh, mon fils, rien n'est impossible à celui qui croit. Mais tu es là, tu regardes. Eh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? David, quand David a vu Goliath, t'es pour l'heureux, il peut dire, mais Dieu, qu'est-ce qu'on t'a fait? Il pouvait rentrer dans le même programme de pleurs que le peuple d'Israël. La Bible dit que tous les soirs, il pleurait. Il y en a qui faisaient des cauchemars. La nuit était brisée. Déjà la nuit, tu les voyais. Tout le peuple d'Israël, des gens qui pleurent pendant 40 jours, ça veut dire qu'ils sont dans la dépression. Il n'y avait personne pour aider son camarade, hein. Quand tu les voyais le matin, mais le matin, la Bible dit, Goliath sortait trois fois dans la journée. Le matin, c'est lui qui les réveillait. Donc ils sont là, ils dormaient. Ils savent qu'à un moment, Goliath va les appeler. Oh, patron là! C'est lui encore. Il veut dire quoi encore? Peureux là! Est-ce qu'il y a parmi vous un homme? Est-ce qu'il y a un garçon? Qu'il vienne se présenter devant moi, je vais l'écraser. Goliath! Donc, le voyant se réveille le matin, il va se brosser, même il se brosse comme quelqu'un vraiment qui n'a plus rien espéré de la vie. Il prend sa douche, il a arrêté. Eux tous, ils sont là, ils se regardent comme ça. Pendant 40 jours, la Bible dit la nuit. Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Quand David est arrivé, il a vu des combattants. C'est pas, lui, David, il n'est pas allé dans une école de guerre. David n'a pas fait Saint-Cyr. Il n'a pas fait formation commando. Ok? Ce n'était pas ni un policier, ni un gendarme. Lui, sa formation, c'était dans la bourse. Quand il surveillait les moutons. Quand le lion arrivait, il dit, mais toi, tu es un lion. Moi, je suis le serviteur de Dieu. Je me rappelle de l'onction que Samuel avait versée sur ma tête. Ce n'est pas pour rien. Tu n'auras pas le dessus sur moi. Il rentre, il attrape le lion, il attrape la gueule du lion, il déchire ça comme ça. L'ours vient. Il dit, mais le lion vient de partir. Toi, tu cherches quoi? Quand il arrive devant Goliath, lui, il n'a pas fait des calculs. La preuve, quand même il voulait aller affronter Goliath, Saül lui a dit, attends, je vais te donner mon arsenal. Il lui a donné une lance, il lui a donné une épée, il lui a donné un bouclier, il lui a donné un casque. David essaie de bouger avec lui, il dit, ton affaire là, c'est trop lourd, papa. Il dit, mais si vraiment cet arsenal-là était efficace, pourquoi tu n'as pas pris ça pour aller combattre Goliath? Moi, il y a une seule chose que je connais, c'est la foi de mon Dieu. Il dit à Goliath, mais toi, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ce soir, c'est pas demain. Oh my God, alléluia. La foi te fait faire des choses. Tu t'arrêtes devant Goliath, un gars qui effraie les gens, et c'est toi qui commences à le menacer. Au lieu que lui te menace, c'est toi maintenant qui le menace. Ce soir, je donnerai ton cadavre à manger aux oiseaux du ciel. Je vais enlever ta tête de ton corps, tu vas voir. Il a dit, mais c'est qui ce gars? Il dit, mais suis-je un chien pour que tu viennes avec moi? Avec un caillou? David dit, regarde. Il met le caillou dedans, il dit, regarde. Hein. Goliath était là, Goliath dit, mais il fait quoi? C'est Goliath lui-même qui a mis sa tête comme ça. Donc il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et puis il est là, il tourne le truc, et puis il laisse le caillou, paf, ça met tapé au milieu des yeux de Goliath. Goliath tombe. Travaille ta foi. Tu vas faire tomber des situations, on va dire, mais la situation même sera étonnée de voir ta réaction. Mais quand tu fuis devant les lions, tu fuis devant les ours, tu fuis seulement. Médaille d'or aux Jeux Olympiques de la fuite devant les problèmes. Quand maintenant Goliath arrive, si tu as fui devant tout ça, le jour où Goliath sera là, tu vas faire quoi? Tu vas même pas fuir, tu vas creuser un trou et puis tu vas t'enterrer en même temps. Je préfère mourir. Il y a des gens qui préfèrent se suicider dans la vie. Il y a des gens qui préfèrent se suicider. C'est-à-dire, ils voient le problème, ils voient la situation. Et puis, au lieu d'affronter toute l'énergie qu'il a là, il va aller prendre des médicaments ou bien il va aller acheter une lame pour pouvoir s'ouvrir les veines. Parce que la vie l'effraie tellement qu'il préfère mourir en même temps. Heureusement que Saül n'a pas donné ce tort-là au peuple d'Israël. Bon, parce qu'il y a des gens qui disent, bon, il n'y a plus rien à faire, hein, suicidez-vous en même temps, comme ça on n'en parle plus. Quel suicide? Il n'y a aucune situation dans ta vie qui ne peut être renversée. Il n'y a aucune situation dans ta vie que Dieu ne peut changer. Le suicide, c'est un aveu d'échec. Tous ceux qui se suicident à 100% vont en enfer. Qu'on ne vous dise pas, qu'on ne vous raconte pas le contraire. Le suicide même est un acte de perte de foi, d'abandon de l'espérance. Quand tu ouvres tes veines, tu renies Dieu. Ça veut dire que Dieu n'existe plus dans ta vie. Tu ne peux rien faire avec Dieu. Dieu ne peut plus rien faire pour toi. Tu n'as plus de foi. Tu dois affronter les situations. Et plus tu en affrontes, plus tu es vainqueur, victorieux, plus les situations qui viennent sont grandes, plus tu as la foi pour les affronter. Et c'est comme ça que tu te bâtis une foi forte. Touche ton voisin, dit une foi forte. Amen. Vous savez, arrête de dire pourquoi Dieu me fait ça. Pourquoi toi-même tu te fais ça? Pourquoi toi tu te fais ça? Pourquoi tu t'infliges ce genre de d'état-là? Pourquoi tu te fais ça? Parce qu'en réalité, la foi marche par l'amour. La foi marche par l'amour. Si tu aimes Dieu, tu auras une grande foi. Si tu n'aimes pas Dieu, tu auras une petite foi. En réalité, les gens qui ne manifestent pas des grandes foi, en fait, sont des gens en fait, qui n'aiment pas Dieu. Ils disent qu'ils aiment Dieu. Oh, moi j'aime Dieu. Mais si tu aimes Dieu, tu auras la foi. Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 40. Les deux commandements. Matthieu 22, 37 à 40. Jésus résume les 10 commandements ici. Au verset 35, la Bible dit, l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, ça veut dire que toi et Dieu, vous faites un. Oh, alléluia. Tes pensées sont remplies de Dieu. Ton cœur est rempli de Dieu. Ton âme est remplie de Dieu. Dieu est en toi. Toi, tu es en Dieu. Vous fusionnez. Tu deviens un chrétien. Il y a des gens qui disent, chrétien, Si tu savais ce que c'était qu'un chrétien, un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Nous sommes tous à des stades différents de développement dans notre chrétienté. Mais le chrétien, c'est pas, il n'est pas en cours de devenir chrétien. Le chrétien, il est à la fin de son développement. Et à la fin de ce développement, un chrétien, c'est quelqu'un qui est identique à Christ, qui est similaire à Christ. C'est ça le chrétien. C'est un être qui est puissant. C'est un être qui affronte les situations. C'est un être qui n'a pas peur d'affronter. C'est un être qui aime et qui est capable de faire de grandes choses pour la gloire de Dieu. C'est ça un chrétien. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus a résumé tous les commandements. Il dit, voilà les deux commandements qui résument tout. Amen. Aimer ton Dieu, aimer ton prochain. Il n'a pas dit, il faut commencer par t'aimer toi-même. Il dit, commence par aimer ton Dieu d'abord. Ensuite, tu aimes ton prochain. Amen. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, il y a un problème dans la fondation de ta vie chrétienne. La fondation de la vie chrétienne commence, la première pierre, c'est l'amour de Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu. J'ai confiance en Dieu. Je développe une relation d'amour avec Dieu. Je fusionne avec lui. Il remplit mon cœur, il remplit mon âme, il remplit ma pensée. Donc quand je vois une situation, je ne la vois pas avec ma pensée d'homme. Je la vois avec la pensée de Dieu. Et si je la vois avec la pensée de Dieu, mais quelle est cette situation devant moi? Zorobabel dit, mais qui es-tu toi aux grandes montagnes devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il le dit pourquoi? Parce qu'il aime Dieu. Il a confiance en Dieu. David dit, mais qui es-tu toi, Goliath, devant moi? Moi je viens avec Dieu. Il dit, mais qui est cet circoncis là? Qui est celui qui ne connaît pas Dieu, qui pense qu'il peut avoir le dessus sur quelqu'un qui connaît Dieu? Si le monde même entier est contre toi et que Dieu est avec toi, tu auras la victoire. Tu vas prévaloir. Tu auras l'avantage. Dieu, c'est la majorité. Le monde peut être contre toi, mais si Dieu est avec toi, tu auras le dessus. Tu dois team up avec Dieu. Tu dois t'associer à Dieu. C'est ça qui nous permet d'avoir une grande foi et une foi forte. Abraham aimait Dieu. Abraham avait une relation avec Dieu. La foi qui poursuit toujours les choses, c'est une foi bizarre. Il y a des gens, leur foi ne se résume que aux choses qu'ils peuvent avoir de Dieu. Non. La foi va d'abord te pousser vers Dieu. Et dit, oh, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Car il faut que ceux qui s'approchent de moi croient que j'existe et que je suis le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, quand tu t'approches, déjà, il faut vouloir t'approcher de Dieu. Non, hein. Seigneur, ne t'approche pas de moi. Je suis trop impur. Je suis injuste. Fais seulement. Ils prennent le miracle du soldat là qui dit, non, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Non, Seigneur, il ne faut pas venir dans ma maison, mais donne-moi du travail. Mais Dieu veut venir dans ta maison. C'est Dieu dans ta maison, Dieu dans ton cœur, Dieu en toi, Dieu avec toi. C'est ça qui va te permettre de développer une foi forte et inébranlable. Mais ce Dieu-là qui est à l'extérieur, non, Dieu veut entrer. Je me tiens à la porte, je frappe, ouvre-moi la porte pour que j'entre. Non, reste à l'extérieur. Aide-moi, mais surtout ne rentre pas. Dieu veut rentrer. Dis à ton voisin, Dieu veut rentrer. Matthieu 6, 21. On arrive à la fin. Matthieu 6, 21. Il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton amour est en Dieu, ton cœur sera en Dieu. Ton trésor sera en Dieu. Tu vas regarder les choses du monde comme étant des choses éphémères, comme des choses futiles. Tu vas prendre l'ascendant sur le monde. Mais si ton cœur, ton trésor, c'est les choses du monde, c'est ta maison ton trésor, c'est tes enfants ton trésor, c'est ton mari ton trésor, c'est ton travail ton trésor, ou bien l'argent ton trésor, ton compte en banque ton trésor, mais là où est ton trésor, là sera ton cœur. Le matin, quand tu te réveilles, au lieu de chercher Dieu, Oh Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce pour cette journée merveilleuse que tu me donnes. Une journée de victoire. Tu dis, hé, attends, j'allais voir sur mon compte en banque combien il me reste. La première personne à qui tu parles, quand tu te réveilles, on te pose la question. Si tu consultes ton compte quand tu te réveilles, il y a un problème. Si quand tu te réveilles, tu envoies un texto à quelqu'un ou à quelqu'une, ou que tu appelles quelqu'un ou quelqu'une, il y a un problème. La première personne que tu dois consulter le matin quand tu te réveilles. Parce que cette consultation matinale-là, c'est le canal pour que Dieu, maintenant, aide ta foi à être au niveau pour la journée. Il y a des gens qui se réveillent, ah, je vais aller voir mes enfants. Mais même si... et vraiment, il faut développer un amour réel et sincère pour Dieu. Une relation avec lui. Amen. Matthieu, donc tu continues. Ensuite, il dit, donc verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront plus grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ma voiture, mon cellulaire, ma maison, mon enfant. C'est ça Mammon. Mammon, Mammon, mais mon, ma, Mammon. Tu ne peux pas servir Mammon et servir Dieu. Dieu a programmé les choses pour que ce soit les choses qui te poursuivent. Et non toi qui les poursuives. C'est pourquoi, il dit au verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Ça ne veut pas dire que tu dois t'habiller salement, et que tu dois porter des chaussures qui font pitié. C'est pas ce que ça dit. Ça dit que ton cœur ne doit pas être sur ces choses-là. Tu vas pas aller dans la présence de Dieu. Seigneur, donne-moi la dernière Reebok qui vient de sortir. Seigneur, donne-moi la dernière Reebok. Et quand tu vois pas la Reebok qui vient de sortir, la dernière Reebok, tu dis, ah, Dieu m'a abandonné. C'est quoi ce genre de foi-là? Ça, c'est pas la foi, ça. Mets ta foi en Dieu. Mets ton espérance en Dieu. Quand la dernière Reebok va sortir, quelqu'un va acheter ça et va dire, oh, alléluia. Sans même que tu aies même à demander. Il y a des choses qu'on a développé une certaine communion avec Dieu, il y a des choses même qu'on ne demande plus. Quand toi-même tu commences à demander ça, ta bouche devient lourde comme ça, tu as l'impression d'avoir rétrogradé. Mais il y a des gens, toute leur vie de prière consiste à ça. Quand ils commencent à prier, bon, on va prier. Seigneur, donne-moi. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste, on a deux pères, on a un Père sur la terre, on a un Père dans les cieux. Votre Père céleste, amen, les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lilies des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Gens de peu de foi. Gens à la fois faibles. Gens à la fois qui est petite. Vous êtes omnibulés par la nourriture, le vêtement, les choses extérieures. Il dit, mais ça doit être le cadet de vos soucis. Parce que si vous comprenez comment le royaume de Dieu fonctionne, vous allez orienter vos pensées, votre cœur, votre âme vers les choses de Dieu. Vous allez vouloir servir Dieu, vous allez vous investir en Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va vous donner des choses encore beaucoup plus glorieuses et beaucoup plus fortes et beaucoup plus puissantes. Vous savez, il y a des gens qui se battent pour avoir le vêtement. Il y a des gens qui se battent pour avoir les choses, pour avoir les choses du monde, pour paraître. Il y a des gens qui ont les mêmes choses. Et quand on les voit les deux, on va se dire, ah, moi je veux faire comme eux, donc tu vas t'endetter ou prendre une carte de crédit pour aller acheter des costumes, mon frère. C'est pas comme ça. Toi, tu cherches Dieu. Et Dieu, lui, t'équipe. Il y a un équipement qui vient de Dieu et puis il y a un équipement que toi-même, tu vas chercher. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez donc point, verset 31. Et ne dites point, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. C'est dans ta Bible. Hein? Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Donc si toi tu cherches ces choses-là, ça veut dire que tu es un païen. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste fait quoi? Il sait que vous en avez besoin. Je n'ai pas dit que je n'ai pas besoin de chaussures. Comprenez-moi bien. Je n'ai pas dit que je n'ai pas besoin de maison. Je n'ai pas dit que je n'ai pas besoin de voiture. Je n'ai pas dit que je n'ai pas besoin d'argent. Mais Dieu ne m'a pas créé pour chercher les voitures, pour chercher l'argent, pour chercher les maisons. Les maisons me cherchent. Et moi, je cherche Dieu. Pendant que je cherche Dieu, ces choses-là me cherchent. Elles veulent te localiser. C'est pour ça qu'il dit au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, ce sont des choses qui doivent venir par-dessus. C'est-à-dire, tu cherches Dieu d'abord, tu saisis la foi, tu grandis spirituellement, tu deviens fort, tu deviens puissant, et ces choses-là viennent par-dessus. Il y a des gens, leur vie se limite au par-dessus. Ils ont la chose, mais ils n'ont pas le fond. Donc leur vie est vide, elle est vile, elle ne se limite qu'aux vêtements. Dis-moi, avec combien de costumes tu vas monter au ciel? Si même tu vas au ciel. Dis-moi, avec combien de voitures tu vas aller au ciel? Tu penses que, si tu te bats pour avoir une Ferrari ou une Maserati, ou bien tu te bats pour avoir la dernière Lamborghini Countach ou ce genre de choses, mais tu vas faire comment? Tu vas dire, transférer ce véhicule-là au ciel comme ça, après ma mort, je vais pouvoir conduire ça là-bas. Zéro. La vie, c'est plus que ça. La vie, c'est plus que ça. Moi, j'aime des fois vous zapper les chaînes là. J'ai beaucoup fait du rap quand j'étais jeune et tout. Et je vois comment est-ce qu'on concevait les clips. C'est-à-dire, quand tu regardes un clip vidéo, qu'est-ce qu'on te montre? Une belle femme, une belle montre. Le gars parle et puis il monte sa montre. Il a une chaîne et puis il sort les billets. Tous les clips sont conçus de la même manière. La vie, les choses qui sont tout. Mais toutes ces choses-là, si tu n'as pas le fond, c'est zéro. Pourquoi? Parce que quand tu meurs, tu perds tout ça. Tout ça, tu le perds. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où il y a la rouille, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Les trésors que tu mets dans ton esprit sont des choses éternelles. Maintenant, tu peux avoir ces choses éternelles et avoir le yacht par-dessus. Avoir le jet par-dessus. Le jour où Dieu me dit, voilà un jet, je n'ai pas dit non. Parce qu'il y a des faux, spirituels. Ah non, je ne peux pas monter un jet. Pourquoi un jet? Moi, donne-moi un jet. Je ne vais pas prendre mon jet pour aller faire la Java à Cannes et puis ensuite aller donner un rendez-vous à quelqu'un à Nice et puis aller dîner avec une femme à Los Angeles. Non, je vais prendre le jet pour aller gagner le monde pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Je vais prendre les véhicules vraiment pour établir la domination de Dieu sur la terre. Et quand les païens vont me voir, ils vont dire, c'est quoi ça? On dit, c'est un enfant de Dieu. Alléluia! Et quand le banquier dit, monsieur, je peux vous rencontrer parce que je sens vraiment des mouvements dans mon agent, je sens qu'il y a quelqu'un de costaud. Ils disent, mais vous êtes qui? Je suis pasteur. Hein? Pasteur? Oui, pasteur. Amen. Je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien. J'aime Dieu, je sers Dieu, je fais l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas ces choses que tu dois chercher. Tu cherches Dieu. Et Dieu te donne ces choses. Par-dessus. Dis par-dessus. Par-dessus. Amen. Oh, c'est trop bon. la parole de Dieu. Romains 4, 20. On parle encore du papa Abraham. Et sans faiblir, c'est mon papa. Amen, c'est le papa de ceux qui ont la foi. Et sans faiblir, donc sans avoir une foi faible, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié. Donc il eut une foi forte. Amen. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il donnait gloire à Dieu. Il donnait gloire à Dieu. Opère dans la foi de Dieu. Donne gloire à Dieu dans toute situation. Sois tranquille, sois en paix. Ne permets à aucune situation de changer ton humeur. C'est comme ça que tu vas muscler ta foi. On vient, on t'apprend, on te dit, tu es foutu. Tu dis pas, hé, comment, je suis foutu. Non. En même temps, tu commences à te préparer à être foutu. Je suis foutu comment? Beaucoup, un peu? Passionnément? À la folie? Non. Tu souris, tu dis, qu'est-ce qui peut, moi, mettre fin à mes jours ou à ma vie? Si ce n'est que Dieu m'ait abandonné. Tant que Dieu est sur son trône, je suis en paix. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Quand David est arrivé, il a vu Goliath, il n'a pas commencé à pleurer ou à douter. C'est une attitude qu'on développe. C'est quelque chose qu'on entretient. On apprend. Personne n'est comme ça naturellement. Il y a qui dit, si tu savais comment je me sens, si tu savais comment je me sens, mais tu te sens comment. C'est pas la manière dont tu te sens qui doit dominer sur toi. C'est toi qui dois dominer sur la manière dont tu te sens. Je sens l'envie de pleurer, je sens l'envie d'arrêter, je sens l'envie d'abandonner. Mais je dis, je n'abandonnerai pas. J'aurai la victoire. J'irai jusqu'au bout. Amen. Comment faire pour muscler sa foi? On va finir avec ça. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8. Il y avait d'autres versets à lire, mais j'ai pris le temps d'introduire le message, donc on va aller droit à l'essentiel. Je vais lire à partir du verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 16. Comment est-ce que tu vas surfer? Tu sais, les vagues, ça emporte des gens, hein? Mais il y a des gens qui font du surf dessus. Ils cherchent les grandes vagues. Quand plus la vague est grande, ils disent, oh, je vais m'éclater. Donc toi, quand tu vois une vague, tu fuis. Mais lui, quand il voit une vague, il court vers la vague avec sa planche de surf. Et il monte sur la vague, et puis tu le vois, il surfe sur la vague, et puis il rentre dans les tunnels, et puis il se penche comme ça, quand il ressort, il dit, waouh, la vague était merveilleuse. Quand tu dis, ah, il y a trop de vagues ici, dans cette plage, mais c'est là où il y a les vagues, là, c'est là où il veut aller. Sois un surfeur sur les problèmes de la vie. Sois un surfeur sur les situations, sur les vagues qui peuvent arriver. Sois quelqu'un qui est toujours, regarde, il dit, verset 16, soyez toujours joyeux. Amen. C'est ce que ta Bible dit. Touche ton voisin, dis-lui, sois toujours joyeux. Sois le genre de personne qu'on voit toujours en train de sourire, en train de rire. Tu es là, tu es comme ça. On dirait que celui-là n'a jamais de problème. Qui t'a dit qu'il n'a jamais de problème? Peut-être que là où il est là même, ses problèmes dépassent tes problèmes. Mais il est là. Il est content. Tu dis, mais tu as quel problème, toi? Pourquoi tu es toujours content? Mais parce que j'aime Dieu. Dieu m'aime. Dieu est fort. Il n'y a aucune situation qui peut m'attrister. Je suis tranquille, quoi. Rien ne peut me... Mais tu vois, le gars. C'est quoi? C'est en faisant ça que ton problème va finir? Jamais. Tu es en train de faire faiblir ta foi. Tu n'es pas en train de faire des grimaces. Reste tranquille. Sois toujours joyeux. Amen. Deuxième verset, 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Ça veut dire que développer une vie de prière régulière. J'ai qui dit, mais comment je vais prier sans cesse? Est-ce que tout, je dois m'enfermer dans un placard et puis être tout en train de prier? Mais si tu penses ça, c'est que tu connais pas Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Donc prier sans cesse, c'est communiquer avec Dieu sans cesse. C'est tout. Tu peux communiquer avec Dieu quand tu es dans le métro, communiquer avec Dieu quand quelqu'un vient t'insulter, communiquer avec Dieu quand tu es en classe, communiquer avec Dieu quand tu es au travail. communiquer avec Dieu même quand tu es au WC. Mais attends, tu penses que le Saint-Esprit rentre pas là-bas avec toi? Quand tu es sur le trône, là, alléluia, peut-être que tu n'as pas de trône, mais ça là, c'est ton trône. Quand tu es sur ce trône là, oh, je te bénis Seigneur, parce que la vie, oh, alléluia, priez sans cesse, soyez toujours joyeux, la vie est belle. Amen. Commence à te réjouir déjà de la manière dont Dieu va te sortir de cette situation. Et de comment tu auras la victoire. Et de comment tu vas te moquer du diable. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Regardez, c'est plus fort. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Le gars vient te gifler, tu le regardes et dis merci Seigneur. Tu m'apprends l'humilité. Seigneur, je te bénis. Le gars va dire, Non, pardon, je ne voulais pas te gifler, pardon. Il va te dire, mais c'est quel gars-là? On le gifle, puis il est content. Même s'il est bête ou drogué ou qu'il a bu, il va réfléchir quand même. Il va dire, ah, j'ai rencontré un homme là. Il est dangereux, hein? Il y a des gens dangereux. Rendez grâce en toutes choses. On t'insulte, merci Seigneur. On te méprise. Je me sens méprisé. Tu te sens quoi? Toi, tu as souffert plus que Jésus. Moi, la seule personne qui a le droit de se plaindre de la manière dont on les traite pour moi, c'est Jésus. Et Jésus ne s'est pas plaint. Il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu es aussi grand que tu le penses et que tu penses qu'on ne te traite pas à la hauteur de ta grandeur, mais ce n'est pas en pleurant et en murmurant que les choses vont changer. Montre-nous ta grandeur. Paul dit, les preuves de mon apostolat ont été rendues évidentes devant vous. Les gens n'ont pas, Paul n'est pas venu dire, je suis apôtre. Hein. Les gens l'ont regardé, ils ont dit, lui là, c'est un apôtre. Pourquoi? Parce qu'il avait les fruits dans sa vie. Amen. Amen. Domine. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut qu'en toute chose, vous lui rendez grâce. Toute chose, vous devez lui rendre grâce. C'est sa volonté. Donc quand vous commencez à arrêter de rendre grâce, arrêtez de dire merci pour toute chose. Et vous fermez un robinet, vous fermez quelque chose. Qu'est-ce que vous fermez? Regardez ce qui dit au verset 19. Juste après, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas. Je vous ai dit, l'esprit... Le Saint-Esprit est pour l'Église ce que c'est que l'électricité pour une ville. Si on coupe l'électricité à Aubervilliers, tout s'arrête. Ma voix n'est plus amplifiée, la caméra ne fonctionne plus, les lumières ne fonctionnent plus. Il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent, les trains, beaucoup de choses s'arrêtent, le métro, tout. Et l'électricité, il y en a à tout moment. Pour pouvoir l'activer, il faut appuyer sur l'interrupteur. On, off. On off, on allume, on éteint. Quand tu commences à perdre ta joie, à arrêter de communiquer avec Dieu et à commencer à te plaindre au lieu de rendre grâce, qu'est-ce que tu fais? Tu éteins l'électricité. Tu éteins. Et quand tu éteins, tu dis, il fait noir, je vois plus clair. Qu'est-ce qui se passe? Ça devient encore pire. Ta situation devient encore pire. Et là, tu n'as même plus, les catholiques disent, tu n'as plus de saint à qui te vouer. On dit, c'est même plus à quel saint se vouer. Tu as déjà fait le tour de Saint Bernard, Saint Rigobert, Saint Attempion, Saint ceci. Il n'y a plus de saint. Même le nom de Jésus, ça ne marche plus pour toi. Quand tu cries, tu veux parler, il n'y a rien. Ça dit que tu as éteint maintenant l'esprit. Et maintenant, tu dis, oui, j'ai la foi, je crois. Tu crois quoi? Quand tu crois, tu manifestes que tu crois. Tu es dans la joie. Qu'est-ce qui va mettre fin à... Oh my God. Ayez foi en Dieu. Amen. N'éteignez pas l'esprit. Par votre incrédulité. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, une foi forte. Tu dois avoir une foi forte. Amen. Tu dois espérer. Contre toute espérance. ne permet pas à tes yeux de t'éloigner de Dieu. Ne pleure pas. Ne t'attriste pas. Essaie de retenir ce verset-là. Sois toujours joyeux. Est-ce que tu peux au moins faire ça? Être toujours joyeux. Hein? David a dit, la joie de l'Éternel est ma force. Sois toujours joyeux. Les gens qui dominent sur la vie sont toujours joyeux. Laisse la tristesse de côté, ça ne peut rien ajouter à ta vie. Au contraire, il paraît que les gens qui sont joyeux vivent plus longtemps que ceux qui sont tristes. Et puis les gens qui sont toujours joyeux, même s'ils étaient vilains avant, ils vont devenir beaux. Et les gens qui sont tristes, qui ont le visage serré, même s'ils étaient beaux avant, ils vont devenir vilains. Parce que leur figure là, ça va devenir bizarre, ça commence. Il n'a plus rien à attendre de la vie. Il sert sa figure, il fait un masque pour donner aux gens. Mais quand tu as des gens qui sont... Il est dans la joie. Ah, il commence. Il attire. Les bouddhistes vont dire, il attire des bonnes vibrations. Et puis on aime être à côté des gens qui sont joyeux. On aime les recevoir chez nous à la maison. Quand tu fais ta fête, tu commences déjà à chercher les gens que tu vas inviter. C'est les gens joyeux là que tu vas mettre en tête d'abord. Parce que l'autre, il va venir glacer ta fête. Quand elle arrive, tu dois exercer un ministère à son égard d'abord. Ça va? C'est toujours lui à qui on demande si ça va. L'autre, il est là, il est tranquille. Parce qu'il est dans une relation d'amour avec Dieu. Amen. Change ton visage. Commence à sourire à la vie. Vous savez, quand vous souriez à quelqu'un, qu'est-ce que la personne fait naturellement? Et vous souriez en retour. Amen. Quand vous serrez votre visage sur quelqu'un, même si vous souriez, il va se dire, le gars, il est bizarre. Hein? Et puis, la prochaine fois que tu le regardes, lui aussi va te regarder bizarrement. Vous pouvez même commencer à vous détester sans même avoir parlé. Donc, si toi, tu serres ton visage sur la vie est là et puis tu lui serres le visage, la vie va te rendre. Amen. Mais si tu regardes la vie et que tu souris à la vie aussi va te sourire. Oui, mon fils, qu'est-ce qu'on dit? Alléluia. Ton visage ne doit plus jamais être le même à partir d'aujourd'hui. Amen. 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 Touche ton voisin, dis-lui, sois toujours joyeux. Sois toujours joyeux. Touche l'autre. Sois toujours joyeux. Amen. Sois toujours joyeux. Joyeuse. Soyez toujours joyeux au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans la joie. Amen. Et quand même, le diable te montre l'image que tu ne voulais pas voir. Quand tu vois ça, souris même encore plus large. Commence même à rire. Parce que tu sais que ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Amen. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté.